la dixième, ainsi que sur la Pâque, la première Pâque qui sera célébrée cette nuit-là. Et je vous propose de commencer par l'annonce de cette première plaie et d'en lire le récit. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 11. Nous allons lire les 10 premiers versets. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire venir encore un fléau, un seul, sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Quand il vous laissera partir, quand il vous laissera enfin partir, il ira jusqu'à vous chasser d'ici. Parle au peuple, je te prie, que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. Le Seigneur avait donné au peuple de la grâce aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très respecté en Égypte par les gens de la cour du Pharaon comme par le peuple. Moïse dit, ainsi parle le Seigneur, en pleine nuit je sortirai au milieu de l'Égypte. Tous les premiers-nés en Égypte mourront, depuis le premier-né du Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui travaille au moulin, ainsi que tous les premiers-nés des bêtes. Il y aura de grands cris dans toute l'Égypte tels qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais plus. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous sachiez que le Seigneur traite différemment l'Égypte et Israël. Alors tous les gens de ta cour viendront se prosterner devant moi en disant « Sors, toi et tout le peuple qui te suit. Après cela, je sortirai. » Il sortit de chez Pharaon dans une colère ardente. Le Seigneur dit à Moïse « Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient en Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant le Pharaon. Le Seigneur fit en sorte que le Pharaon s'entête. Il ne laissa pas les Israélites partir de son pays. Jusqu'ici, Moïse n'avait aucune idée du nombre de fléaux qui allaient s'abattre sur l'Égypte. Dieu lui avait dit qu'il y en aurait plusieurs, mais il ne lui en avait pas donné le nombre exact. En faisant correspondre les différentes plaies aux différentes saisons et aux différents cycles naturels, on peut arriver à l'estimation qu'il y a environ un an qui s'écoule entre la première plaie et la dernière. Un an que cela dure. Une véritable école de patience pour Moïse et pour le peuple. Après la neuvième plaie, au début donc du chapitre 11, Dieu dit à Moïse que la plaie suivante sera la dernière. Et après cette prochaine plaie, Pharaon les laissera partir. C'est ce que nous avons vu au verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire venir encore un fléau, un seul sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. » J'aimerais ici décliner maintenant en quelques points le fait que la dixième plaie est une plaie à part, qu'elle se démarque des neuf premières, et cela de plusieurs manières. Et la première chose que j'aimerais souligner, c'est que cette dixième plaie est un fléau à part parce qu'elle se démarque véritablement des neuf premières plaies par sa nature. Dans cette dixième plaie, il n'y a pas de cause secondaire, pas de grêle, pas de grenouille, pas de criquet, mais seulement Dieu, Dieu lui-même qui agit directement. Versets 4 et 5, Moïse dit « Ainsi parle le Seigneur, en pleine nuit je sortirai ». Au milieu de l'Égypte. Tous les premiers-nés en Égypte mourront. La dixième plaie est un fléau à part, deuxièmement, parce que sa portée est sans précédent. toutes les familles égyptiennes seront touchées. Tous les premiers-nés en Égypte mourront. Pas une famille n'en réchappera. Et un petit peu plus loin, dans le chapitre 12, quand la plaie a effectivement lieu, nous pouvons lire « Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y eut un mort. » On a parfois l'idée fausse que ce ne sont que des bébés ou peut-être que des enfants qui sont morts cette nuit-là. Le texte ne donne pas de précision à ce sujet. Mais s'il s'agit de tous les premiers-nés, alors très certainement que certains étaient déjà adultes. Très certainement même que certains étaient parents eux-mêmes d'enfants avec un premier-né, etc. Et donc il n'est pas improbable qu'une même famille ait été frappée cette nuit-là à plusieurs reprises. La détresse va être immense dans tout le pays, dit le texte, comme jamais auparavant et comme jamais plus. Mais Israël sera épargné. Verset 7, en Israël, pas même un chien n'aboiera, dit le texte. C'est ici une image de quiétude. Une image de quiétude qui souligne l'absence totale de danger. Tout est paisible là où se trouve Israël. Absence totale de danger, pour autant que les Hébreux obéissent aux instructions de Dieu pour la célébration de la Pâque. Et nous allons voir cela dans quelques instants. La dixième plaie est un fléau à part, troisièmement, parce que c'est par elle que Dieu va faire plier, capituler Pharaon. C'est par cette dernière plaie que la délivrance promise est enfin accordée à Israël. Nous l'avons déjà souligné quand Dieu l'annonce au verset 1. Pharaon a résisté. Ça fait à peu près un an, nous avons dit. Il a tenu tête à Dieu, au vrai Dieu. Pensait-il avoir remporté le bras de fer avec Dieu quand il a dit au chapitre précédent, chapitre 10, verset 28, à Moïse de ne plus reparaître devant sa face, sinon il mourrait ? Pensait-il avoir eu le dernier mot ? Mais Dieu avait encore une carte en main. Et cette dernière carte va faire définitivement plier le genou à Pharaon. Bien sûr, Dieu n'avait pas besoin de 10 plaies pour cela. Il aurait pu frapper très fort dès le départ et faire plier Pharaon dès la première plaie. Alors on peut se poser la question, pourquoi autant de plaies ? Il y a sans doute plusieurs réponses que l'on peut apporter ici. J'aimerais juste dire que j'y vois là le signe de la grâce de Dieu, de cette main que Dieu tend à l'homme pécheur pour qu'il la saisisse avant qu'il ne soit trop tard. Le couperet n'est pas tombé tout de suite pour Pharaon, ni pour les Égyptiens, il est venu bien plus tard. Et Pharaon aurait pu reconnaître la souveraineté de Dieu bien avant. Malheureusement, Pharaon a sans cesse rejeté cette main tendue de Dieu. Nous avons vu qu'il y a eu des signes encourageants. On a eu le sentiment par moments qu'il était sur le bon chemin. Mais ce n'était que des feux de paille. Et son cœur est resté endurci jusqu'au bout. La dixième plaie est un fléau à part, quatrièmement, parce que celle-là est un jugement contre tous les dieux de l'Égypte. C'est ce que dit le texte. C'est le coup de grâce qui est porté contre tout le panthéon égyptien et qui montre la totale impuissance de ces dieux égyptiens et la totale souveraineté de Yahvé. Verset 12 du chapitre 12, « Cette nuit-là, dit Dieu, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ainsi j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. » Enfin, la dixième plaie est un fléau à part parce qu'elle est indissociable de quelque chose de très important, qui est la Pâque, qui va être célébrée cette nuit-là et dont j'aimerais parler maintenant. Et je vous propose de lire la suite du récit avec les prescriptions que Dieu donne à Moïse pour l'instauration, la mise en place de cette célébration de la Pâque. Nous sommes au chapitre 12 et je lis les 14 premiers versets. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dites à toute la communauté d'Israël, le dixième jour de ce mois, on prendra un mouton ou une chèvre, un agneau aussi selon les traductions, pour chaque famille, une bête par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour une bête, elle la prendra avec le voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes à nourrir. Vous répartirez cette bête d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera à la tombée du soir. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux montants et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la viande, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le jetterez au feu. Voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ainsi j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. Ce sera pour vous un jour d'évocation. Vous le célébrerez comme une fête pour le Seigneur. Vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. J'aimerais commencer ce point sur la Pâque en soulignant l'importance pour Israël. La Pâque, c'est un événement fondateur pour le peuple d'Israël qui correspond à la libération de l'esclavage de l'Égypte, mais surtout qui correspond à la libération de l'esclavage de l'Égypte par une mort expiatoire. Une mort, on pourrait allonger, une mort de substitution d'une victime non coupable, expiatoire. C'est en effet parce que le sang de l'agneau sacrifié était appliqué sur les montants et sur le linteau de la porte que Dieu passait par-dessus et épargnait les familles où le sang avait été appliqué. La Pâque est tellement importante dans l'histoire d'Israël que même le calendrier du peuple juif va être modifié à ce moment-là. Ça arrive quand même pas souvent qu'on modifie le calendrier. Pour nous, ça date depuis quelques millénaires. Nous lisons au verset 2, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le nouvel an change. Dieu désigne le mois correspondant à l'événement de la Pâque et de l'Exode, comme le premier des mois de l'année. Avant cela, quel était le calendrier du peuple hébreu ? C'était le calendrier agricole et civil qui débute à l'automne et qui rythme toute l'année du peuple juif. Maintenant, il y a un autre calendrier qui commence, qui débute au printemps, entre mars et avril, qui va être en parallèle et qui va rappeler à Israël que sa vie, sa liberté, dépend de cet événement qui s'est produit lors de la première Pâque, de cet acte de libération de l'esclavage en Égypte. Il est difficile de surestimer l'importance de la Pâque et de l'Exode qui suit tout de suite après pour le peuple juif. C'est un événement si important que Dieu demande à son peuple d'en faire un souvenir, une célébration perpétuelle. Au verset 14, « Ce sera pour vous un jour d'évocation, vous le célébrerez comme une fête pour le Seigneur, vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. » Avec la Pâque, c'est une nouvelle base de relation qui est posée par Dieu entre Dieu et les hommes, entre Dieu et son peuple. Dieu rachète des hommes et des femmes de la mort pour en faire son peuple, et il le fait par le sang d'une victime expiatoire non coupable. Si la Pâque est dans l'Ancien Testament, pose donc cette nouvelle base de relation entre Dieu et les hommes, elle ne fait pas que cela. Elle annonce quelque chose. Elle préfigure le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu venu ôter le péché du monde. Elle annonce une rédemption bien plus grande que seulement celle de ce peuple. Alors ils étaient nombreux, 600 hommes, 2000 avec les femmes et les enfants, 2 millions, pardon, à peu près, c'est l'estimation, au moment de la sortie d'Égypte. Mais ce n'est rien comparé à la rédemption que Dieu accorde au monde entier. Et l'Apocalypse utilise toutes sortes de termes, des myriades, c'est vraiment des foules immenses qui sont là devant le trône de Dieu. Il faut se rappeler ici que les sacrifices de l'Ancienne Alliance n'avaient aucun pouvoir en eux-mêmes et par eux-mêmes. Le sang de bouc, le sang d'agneau, le sang de taureau, de tout ce que vous voulez, ne purifie aucun péché. C'est dans la perspective d'un sacrifice plus grand, d'un sacrifice plus parfait un jour. C'est dans la confiance qu'un jour Dieu ferait ce qui est nécessaire pour le pardon des péchés que les sacrifices étaient offerts dans l'Ancien Testament. Et nous avons un texte dans l'Épître aux Hébreux qui nous aide à comprendre cela. Hébreux 9, versets 12 à 15, « Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de bouc et de veau, il a offert son propre sang et nous a ainsi délivrés définitivement de nos péchés. » Le sang des boucs et des taureaux et les cendres de la vache brûlée que l'on répand sur les personnes impures par rapport au rite les purifie de cette souillure extérieure. S'il en est bien ainsi, combien plus efficace encore doit être le sang de Christ ? Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme sacrifice parfait. Son sang purifiera notre conscience des actions néfastes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Et on arrive au verset clé. Voilà pourquoi le Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir les biens éternels qu'il a promis aux siens. Ils le peuvent parce qu'une mort est intervenue. grâce à laquelle les humains sont délivrés des fautes commises sous la première alliance. Il y aurait beaucoup de choses à dire ici, mais ce n'est pas le sujet tout à fait. Mais nous pouvons comprendre à partir de ce passage que c'est le sang de Jésus, bien évidemment, qui purifie toutes les fautes, tous les péchés qui ont été commis avant et après le sacrifice. Ils trouvent tous leur pardon dans le sacrifice de Jésus. Ceux qui ont été commis avant regardaient en espérance à ce que Dieu allait faire. Et ceux qui ont été commis après regardent en arrière avec confiance à ce qui a été accompli à la croix. C'est le sang de Jésus qui offre une rédemption éternelle, une délivrance définitive. C'est son sang qui efface et purifie les péchés. C'est son sang qui délivre des fautes commises, même sous la première alliance. Voilà pour ce premier point, enfin cette introduction à la préfiguration de la Pâque. La Pâque préfigure donc le sacrifice de Jésus qui a accompli tout ce que cette célébration annonçait, et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire dans sa lettre aux Corinthiens que Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Et j'aimerais en quelques points maintenant décliner, en quelques points principaux, décliner les différents aspects de l'accomplissement de la Pâque par Jésus. Et la première chose que l'on peut dire et que l'on doit dire ici, c'est que Jésus est l'agneau de Dieu. S'il est notre Pâque, c'est parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste ne s'y est pas trompé quand il a vu venir Jésus à lui. Inspiré par l'Esprit Saint, il a vu en Jésus celui qui accomplissait tout ce que la Pâque annonçait. Nous lisons dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, « Le lendemain, il, c'est-à-dire Jean-Baptiste, vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est quand même une drôle de manière d'appeler quelqu'un, à moins de faire le lien, bien évidemment, avec la Pâque dans l'Ancien Testament. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Christ, notre Pâque, a accompli tout ce que cette célébration annonçait. Ainsi, deuxièmement, Jésus était sans péché, sans faute, comme devait l'être l'agneau du sacrifice, qui devait être sans maladie, sans tare, sans malformation, sans défaut. Verset 5, « Ce sera une bête sans défaut », avons-nous lu. Parce que rien de moins que la perfection ne pouvait satisfaire la justice de Dieu. Alors bien sûr, l'agneau n'est pas parfait, mais il représente celui qui sera parfait. C'est pour ça qu'il devait être sans défaut. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit à ce sujet, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Et l'apôtre Jean écrit dans sa première lettre, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. » Jésus est l'agneau sans défaut, choisi par Dieu pour être notre Pâque, pour nous offrir la rédemption, le rachat de nos fautes par son sang précieux. Et c'est dans cette idée-là que l'apôtre Pierre écrit que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Pour s'assurer que l'agneau était effectivement sans défaut, le choix de l'agneau du sacrifice de la Pâque ne pouvait pas et ne devait pas être fait à la dernière minute. C'est la raison pour laquelle, on ne va pas revenir sur le texte, mais c'est la raison pour laquelle la Pâque qui devait être célébrée le 14e jour du mois, il fallait choisir l'agneau dès le 10e jour. C'est-à-dire 4 jours auparavant. Et pendant 4 jours, l'agneau était là en observation pour s'assurer qu'il n'y avait effectivement aucun défaut, qu'il était sans tache, sans malformation. Il fallait être absolument sûr de cela, parce que cet agneau-là représentait l'impeccabilité de Jésus, celui qui était sans péché et qui est l'agneau de Dieu. Il fallait donc observer cet agneau, tout comme la vie de Jésus a été observée sous toutes les coutures. Et même les détracteurs de Jésus ont dû arriver à la conclusion, même ses ennemis, qu'il n'y avait rien à lui reprocher, qu'il était effectivement sans défaut. Alors oui, on a trouvé des faux témoins, on a monté une parodie, qui est son jugement bien évidemment, mais il n'y avait rien de tangible à lui reprocher. Prenons quelques exemples. Judas. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » La femme de Pilate. Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Un peu plus loin, Pilate lui-même, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, en présence de la foule, et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. » Le brigand sur la croix. « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et puis, termine ce petit survol avec le centenier devant la croix qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Oui, assurément, à l'instar de l'agneau pascal, Jésus, l'agneau de Dieu, sans défaut, offert en sacrifice pour nos péchés. Il est l'agneau de Dieu sans défaut, offert en sacrifice pour nos péchés. Il est notre Pâque. Il est notre rédemption. Il est notre salut. Christ, notre Pâque, a accompli tout ce que cette célébration annonçait. Ainsi, troisièmement, Jésus, l'agneau de Dieu, s'est laissé faire. Comme l'agneau qu'on mène à la boucherie, comme l'agneau qu'on mène au sacrifice. Maltraité et affligé, dit Ésaïe 53, il n'a pas ouvert la bouche. Il a soumis sa volonté à celle de son Père. Il a été obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix, jusqu'au sacrifice de sa vie, pour nous offrir le salut. Christ, notre Pâque, a accompli tout ce que cette célébration annonçait. Ainsi, quatrièmement, Jésus n'est pas mort pour ses propres fautes, tout comme l'agneau du sacrifice de la Pâque mourait en substitut pour ceux de la maison où le sang était appliqué. L'agneau pascal, tout comme l'agneau pascal, Jésus ne payait pas pour ses fautes, mais pour celles de ceux qu'il représentait. Lui, l'innocent, payait pour les coupables. Lui, l'agneau de Dieu sans défaut, ôtait le péché du monde par son sacrifice expiatoire. Lui, le juste, mourait à la place des injustes. Et puis Christ, notre Pâque, a accompli tout ce que cette célébration annonçait. Ainsi, cinquièmement, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix nous met à l'abri du jugement de Dieu. comme le sang de l'agneau sacrifié qui était appliqué sur les poteaux et le linteau de la porte, protégeait la famille cette fameuse nuit. C'est bien le sang qui était là, qui détournait la colère de Dieu, et c'est pour cela que l'ange passait par-dessus sans inquiéter cette famille. Et ainsi, le ou les premiers-nés de la maisonnée étaient épargnés. Leur vie avait été rachetée par le sang de l'agneau. Il y aura beaucoup de choses à dire, on y viendra un peu plus tard, sur cette question du rachat des premiers-nés. Et on y reviendra peut-être la prochaine fois. Vous le savez certainement, le mot « Pâques » en hébreu veut dire « passer par-dessus ». C'est rattaché à un verbe qui veut dire « passer par-dessus ». Alors les Anglais, ils ont trouvé le truc parce que « Pâques » en anglais, c'est « Passover », hein, « passer par-dessus ». Donc eux, ils n'ont pas de souci avec ça. Nous, « Pâques », c'est plus compliqué. Mais ça veut littéralement dire « passer par-dessus ». Verset 13, « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous. Je passerai par-dessus. Et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. » Pâques, c'est le jugement de Dieu qui passe par-dessus, sans atteindre, sans nous atteindre. Car le sang de l'agneau de Dieu, appliqué au cœur du croyant, détourne de lui la colère divine. Il détourne de lui la colère divine parce qu'elle est tombée sur Jésus à la croix. Jésus qui s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était sous le feu de la colère de son Père. Et il fallait que le Fils de Dieu subisse cette colère à notre place pour que nous puissions être épargnés. Et c'est ce que l'apôtre Jean va dire dans son évangile. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Christ, notre Pâques, a accompli tout ce que cette célébration annonçait, et ainsi, sixièmement, sa chair nourrit, nous nourrit, tout comme la chair de l'agneau nourrissait les membres de la famille. Cette chair devait être mangée lors de la première Pâque et de toutes celles qui ont suivi avec des pains sans levain, dit le texte. Le levain, c'est un bout de pâte que l'on prélève sur la pâte précédente et qu'on ajoute à la pâte suivante. Et la fermentation se transmet ainsi. Le levain, c'est donc le signe de la continuité. Pendant la semaine qui précédait la Pâque, puis le jour de la Pâque, les enfants d'Israël devaient manger des pains sans levain. Et surtout, ils devaient ôter tout le levain des maisons. C'est ce que nous lisons, alors on ne l'a pas lu, mais c'est à la suite, c'est le verset 15 du chapitre 12. « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons. » Quiconque mangera quelque chose de levé du premier jour au septième jour sera retranché d'Israël. Si le levain, c'est la continuité, l'absence de levain, c'est la rupture. C'est la rupture avec le passé. En enlevant le levain des maisons et en mangeant des pains sans levain, le peuple marquait symboliquement la rupture avec leur vie passée. La vie ancienne était passée, une vie nouvelle commençait pour eux. C'est la même chose pour nous si nous sommes en Christ, notre Pâques. L'apôtre Paul écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Rupture et nouveauté. Parce que Christ est notre Pâques. parce que nous sommes de nouvelles créations en lui, parce que nous sommes en lui sans levain. Alors bien sûr, dans l'équation, il faut rajouter la chair qui continue et qui vient compliquer tout. Mais en lui, nous sommes sans levain. Et c'est la raison pour laquelle, c'est Paul qui le dit toujours aux Corinthiens, mais dans sa première épître, nous devons faire disparaître le vieux levain de notre vie. Alors tout ça, c'est bien sûr des images, je vous invite à y revenir, je passe rapidement, mais Paul dit, purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni avec un levain de malfaisance et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Faire disparaître le vieux levain, c'est faire disparaître ce qui existe de la vieille pâte. C'est faire disparaître le péché de notre vie. C'est la sanctification à laquelle le Seigneur appelle chacun de ses enfants. C'est vivre en conformité avec ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, notre Pâque. Et nous pouvons le faire. Nous avons le pouvoir, la capacité de le faire. Parce qu'en lui, nous sommes sans levain. Il faut bien évidemment vivre et choisir de vivre en lui. La chair de l'agneau devait être mangée avec des herbes amères qui rappelaient au peuple la vie amère de l'esclavage qu'ils avaient vécu. Et puis, il ne fallait briser aucun des os de la victime. C'est un petit peu plus loin dans le chapitre 12 que cela est indiqué. Et un psaume va reprendre cela en annonçant le sacrifice de Jésus. C'est le psaume 34, verset 21, qui annonce aussi cela. Et nous savons que les os de Jésus n'ont pas été brisés. Nous savons que les Juifs avaient pour habitude, lors des crucifixions, celles qui se passaient juste avant le sabbat, de briser les os des membres inférieurs pour accélérer le processus, puisque par la crucifixion, c'est une mort par asphyxie. Et donc si je ne peux plus pousser sur mes jambes pour relever la cage thoracique, eh bien, très très vite je m'asphyxie. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire lors du sacrifice de Jésus. Mais Jésus est l'agneau de Dieu et il fallait que tout s'accomplisse jusque dans le moindre détail. Et nous lisons dans Jean au chapitre 19, c'était le jour de la préparation. Et pour que les corps ne demeurent pas en croix pendant le sabbat, car ce sabbat-là était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Quand ils vinrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Notons encore qu'en parlant de la chair de l'agneau, que tout devait être mangé, rien ne devait rester du sacrifice. Et si quelque chose au petit matin restait, il fallait le brûler parce que tout devait être consommé. Et nous pouvons sans doute voir là aussi une image de ce sacrifice complet de Jésus qui s'est donné entièrement pour nous. Et puis, toujours en parlant de cette chair qui devait être mangée, il fallait manger l'agneau à la hâte. Il fallait que les reins soient sains. Il fallait que les souliers soient aux pieds et il fallait que le bâton soit à la main. Il fallait être prêt à partir. Alors nous, ça nous paraît normal puisque la délivrance arrive. Sauf que, à l'intérieur des maisons, on ne portait pas de sandales, on ne portait pas de ceinture, on n'était pas du tout habillé comme ça et on ne mangeait pas la Pâque ainsi. Et donc le faire au moment de la Pâque, c'était un acte de foi, que quelque chose allait se passer. Ils mangeaient la Pâque en attendant cette délivrance que Dieu avait promise. Et il en va de même pour nous. Recevoir Christ, notre Pâque, c'est aussi le faire dans la foi de tout ce que Dieu nous promet, de l'espérance dont il nous a été parlé ce matin. C'est se mettre en route avec le Christ sur la base seule de la parole de Dieu et de ses promesses. C'est prendre Dieu au mot et c'est choisir de lui obéir. Enfin, pour terminer avec ce point sur la chair de l'agneau, j'aimerais souligner que le sang est important, bien sûr, mais la chair nourrissait le peuple. Et nous avons là une belle image de ce que le Christ est pour chacun de ses enfants, chacun de ses disciples. Jésus est non seulement l'agneau qui verse son sang pour nous sauver, mais il est aussi celui qui nourrit nos vies. Celui qui nourrit nos vies de sa vie, de son exemple, de son obéissance, de sa parole, de son sacrifice. Il est le pain descendu du ciel. Il est le pain de vie. Il est le pain qui rassasie vraiment celui qui s'en nourrit et qui le rassasie pour l'éternité. Je termine. Il y a beaucoup de similitudes entre la première Pâque et le sacrifice de Christ, mais il y a aussi des différences et j'aimerais juste en souligner une maintenant. Malgré tout ce qui était préfiguré et que le Christ a accompli en étant notre Pâque, il y a quelque chose qui est radicalement différent. Nous l'avons dit, dans l'Ancienne Alliance, les sacrifices n'avaient pas d'efficacité en eux-mêmes, par eux-mêmes, et ils étaient en plus offerts par des pécheurs qui avaient eux-mêmes besoin de sacrifices. Donc c'était un système sans fin. Il fallait offrir des sacrifices pour être capable d'offrir des sacrifices, et puis ensuite il fallait en offrir à nouveau parce que c'était les prescriptions de Dieu, et c'était sans fin. Et tout cela était donc bien limité et imparfait. Il fallait sans cesse recommencer les sacrifices. Mais le sang de Jésus, lui, est efficace et il est suffisant. Suffisant pour nous purifier de tous nos péchés. Et c'est la raison pour laquelle un seul sacrifice de Jésus suffit. Et c'est la raison pour laquelle l'Épître aux Hébreux va dire à plusieurs reprises que Jésus s'est offert une seule fois ou une fois pour toutes. Ce que Jésus a fait, il l'a fait parfaitement. Sur la croix, il a d'ailleurs dit que tout était accompli. C'est ce qu'il a déclaré avant de mourir. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin de recommencer. Il n'y a pas besoin de trouver un nouveau prophète qui fasse quelque chose d'autre ou quelque chose de mieux. Nous n'avons besoin de rien d'autre que du sacrifice de Jésus pour être sauvés et pour être pardonnés de nos péchés et pour être délivrés de la colère de Dieu. Ce que Jésus a accompli est suffisant pour l'éternité, est suffisant pour chaque homme et chaque femme qui met en lui sa confiance. Un dernier texte de l'Épître aux Hébreux qui dit « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. » Tout a été accompli, une fois pour toutes, pour notre salut, par Jésus à la croix. Et c'est là que l'agneau de Dieu a donné sa vie pour cela. C'est là que son sang a coulé pour nous purifier de nos péchés et pour nous délivrer du jugement à venir. Que faisons-nous de ce sang qui a coulé? Qu'est-ce que je fais de ce sang de Jésus qui a coulé à la croix? Est-ce que je l'ai, si on veut un peu transformer l'image, est-ce que je l'ai appliqué au montant et au linteau des portes de mon cœur? Si tout a été accompli par le Christ, je dois néanmoins me l'approprier. Je dois le recevoir par la foi. À l'instar des Hébreux en Égypte, je dois volontairement me mettre sous, ou à l'abri, ou au bénéfice du sang de Christ. Et si c'est le cas, alors je peux me reposer dans la certitude que ce sang me purifie, me pardonne mes péchés, me purifie. Je peux me reposer dans la certitude que ce sang détourne efficacement de moi la colère de Dieu que je mérite pour mes propres fautes. Il n'y a plus de condamnation pour celle ou celui qui est en Jésus-Christ. Mais si ce n'est pas le cas, si je ne suis pas au bénéfice du sang de Christ, alors je suis encore sous la condamnation. Alors, je suis encore dans la perspective de cette colère de Dieu que je mérite pour mes fautes. Parce que le prix reste à payer. Jean, dans son évangile, va dire des paroles très solennelles et qui sont cette fois-ci le dernier texte que je cite. Il est court et il n'est pas là. Bon. Je vais trop vite. Voilà. C'est Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Que le Seigneur nous fasse la grâce de comprendre ces choses et de les saisir par la foi. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.